Bien, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Marion et bonsoir Pauline. Donc ce soir, la librairie Mola reçoit Marion Lara et Pauline. Donc vous êtes déjà ici chez vous, puisque vous êtes bordelaise et je crois que vos parents résident non loin de la librairie. Et donc ce soir, vous venez nous présenter donc, votre livre « La pilule est amère » qui est paru chez Stock et qui est surtout le récit plus que... de votre expérience plus que douloureuse, donc suite à l'AVC qui est survenue en juin 2006. Et surtout, vous l'avez appris plus tard, donc du fait de la prise d'une pilule contraceptive de troisième génération. Alors la première question, si je puis me permettre, que j'avais envie de vous poser après la lecture de votre livre, c'est comment allez-vous aujourd'hui?
Alors, bonsoir. Je vais mieux. Déjà, je parle. Donc c'est plutôt positif. Je parle, mais encore avec des signes d'aphasie. Par exemple, quand je suis stressée, quand je suis fatiguée, je parle moins bien. Et puis surtout, des signes d'aphasie encore au niveau écrit. Au niveau physique, c'est pas encore ça. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup d'opérations. Je boite et au niveau de mon bras et de ma main, ils sont paralysés, surtout ma main, et j'ai des signes de plasticité, c'est-à-dire que en fait je suis complètement contractée et c'est extrêmement douloureux.
Alors justement, avant de parler de cette question, de cette prise de conscience que vous allez avoir, pas tout de suite, donc ça vient de la pilule, cet accident qui vous est arrivé. Je voulais revenir à la première partie de votre livre, puisque j'ai eu le sentiment à cette lecture qu'il y avait deux prises de conscience essentielles, en fait, dans votre parcours, qui jalonnaient votre parcours, justement, vers ce combat. Et la première, on sent qu'il y a quand même, peut-être pas une résignation, mais une acceptation de votre mal. Puisqu'au début de votre accident... ce qui frappe, c'est que vous êtes encore dans ce personnage d'étudiante qui n'attend que ses résultats de concours, pour laquelle toute sa vie dépend de ses résultats. Donc est-ce que justement cette acceptation était nécessaire? Vous dites que le parcours est plus important que le but pour passer à la lutte après.
De toute façon, à un moment ou à un autre, il faut un peu se résigner, parce que c'est vrai que Quand on n'a plus le moyen de s'exprimer, c'est sûr qu'après, c'est dur de passer des concours pour aller à Ulm, quoi. Enfin, ça, c'est sûr. J'étais consciente que j'avais pas perdu mon intelligence. Donc voilà. Mais c'est vrai que il a fallu beaucoup beaucoup de temps pour essayer de remonter en termes de sociabilité,
voilà, parce que c'est ce qui marque le plus, c'est cet effroi qu'on a. J'ai eu le sentiment que vous combattiez contre la banalisation. C'est vrai que quand on a eu la chance de ne pas avoir de personnes qui sont touchées par un AVC, où on pense, la personne a eu un AVC, il s'en est sorti, tout va bien. Là, on se rend compte qu'effectivement, il n'y a pas que ça. Après, il y a un parcours terrible, plusieurs moments de survie, ce qui met encore plus en lumière le drame du fait que ça vienne de cette pilule et qui vous désocialise et qui, en plus, entraîne toute une famille. Parce que, justement, il y a la voix de votre sœur dans votre livre qui intervient un peu comme... celle qui met en lumière aussi la difficulté de l'entourage à vivre à côté de la personne qui souffre.
Tu
veux que j'y réponde?
Oui.
Bonsoir. C'est vrai qu'on s'était dit que c'était intéressant d'apporter cet éclairage parce que Marion ne lui disait pas tout non plus. Elle vivait son combat seule, elle ne pouvait pas non plus tout entendre. Et c'était important de mettre en perspective avec aussi, effectivement, la douleur de la famille, mais aussi comment la famille l'accompagne, parce qu'on lui a souvent répété qu'on lâchait rien, et encore aujourd'hui, on dit qu'on lâche rien. Donc, c'était aussi important, effectivement, d'avoir cette mise en perspective. Parce qu'un AVC, elle le fait seul, mais on le vit à plusieurs. Donc.
Oui, c'est ça. Et puis, on a vraiment le sentiment que c'est pas non plus... Enfin, je veux dire, on peut aussi... ça se sent sous votre, dans votre voix à vous. Parfois, vous avez un peu quand même de l'agacement. Donc, il y a aussi ces mesures à remettre en place. Mm. Et on doit sans doute aussi culpabiliser, de se dire quand votre sœur vous appelle, qu'elle est en crise, que vous êtes loin. Mm. Voilà. Donc, il y a tout... Cette première partie montre qu'il y a vraiment tout un bouleversement et que quand je parlais qu'il fallait accepter ce qui vous était arrivé, c'est vous dites je me sens marginale, c'est-à-dire qu'il faut peut-être que vous acceptiez de vous placer à une autre place que ce que vous attendiez pour entamer la lutte.
Oui, enfin, je me sens marginale. C'est-à-dire que oui et non. maintenant, et puis maintenant, enfin, j'en ai un peu rien à faire, enfin, que des gens me disent ah ben je suis enfin tu es handicapée, bah oui, bah je suis handicapée, et alors après les gens parfois me disent ah mais tu es aphasique, donc tu es débile, une personne il y a 2 semaines, et là, enfin, moi j'ai dit bah non, enfin c'est vous qui êtes débile, et voilà, enfin maintenant, enfin dire je m'en fiche. Enfin voilà. Fin...
Mais c'est vrai que c'est des étapes de deuil qu'on traverse, évidemment. Au début, on est dans le déni, on est dans le refus. Et puis, je pense que ces étapes de deuil, on ne les a pas toutes vécues au même moment non plus. Et donc, c'était effectivement assez intéressant de l'illustrer. C'est toute la première partie qui montre
oui,
ça.
Oui, parce que justement, toute cette première partie montre que tout ce qu'on voudrait cacher par la suite, c'est-à-dire que les risques de ces moyens de contraception sont quand même dramatiques, parce que ça entraîne la chute de la personne déjà, parfois la mort, et de tout l'entourage.
Oui, le collatéral, oui.
Donc à partir du moment où vous avez eu cette deuxième prise de conscience, donc là vous êtes entrée dans un autre combat.
Bah oui, alors ça c'est vrai que d'un coup, enfin j'ai compris que ça marchait pas du tout bien en France, quoi. Alors pas du tout bien. Moi, enfin je pensais que la pilule c'est magnifique, que voilà, que de toute façon les gens qui prenaient pas bien la pilule, enfin c'était des gens qui fumaient 3 paquets par jour, enfin voilà, et puis qui avait juste des problèmes de thrombose dans les chambres. Et puis tout à coup, je comprends que des gens comme moi, qui ont des AVC, qui ont des embolies pulmonaires pour rien, enfin tout à coup, j'ai dit mais what the fuck, quoi, enfin voilà, et puis après se rendre compte que donc beaucoup de gynécos cachent, ne font pas remonter les informations, que il y a 10% des filles, 10% de la population qui doit pas prendre des contraceptifs hormonaux, qu'il y a des contraceptifs de 3e génération qui sont vraiment une intox. Enfin, à un moment, on a compris, ma famille et moi, et puis après, Pierre Barcarian aussi, qu'on a trouvé sur Internet comme ça, parce que mon père est devenu complètement obsédé de ça. C'est horrible, quoi. Et voilà, et je pense qu'à un moment ou à un autre, il faut changer. C'est vraiment... pas du tout des trucs c'est vraiment un truc sociétal, c'est pas un truc médical, des moyens de contraception, c'est-à-dire que maintenant il faut plus que les hommes prennent part à la contraception, il faut aussi que des moyens non hormonaux non hormonales, prennent part, que, enfin voilà quoi, tout ça. Et bon, c'est vrai que ben les labos, non mais les labos contrôlent tout. Et les labos contrôlent tout et ça, enfin, c'est
alors,
triste.
Il y a un parallèle aussi dans votre expérience et vous en parlez souvent. C'est le combat qu'avait eu votre mère quand elle était jeune, dans les années 70, comme beaucoup de femmes à cette époque, pour la liberté des femmes. C'est-à-dire, ça passait aussi par ce moyen de contraception, par l'IVG. Et vous, votre combat, qui est finalement un peu le même, parce que c'est aussi pour la liberté, comme vous le dites souvent, mais où vous, malheureusement, de manière contradictoire, vous dites que vous heurtez aussi un petit peu à cette sacralisation de la pilule dans le milieu féministe.
Mais oui, mais déjà, enfin, c'est notre combat, c'est pas mon combat. Enfin, je suis pas superwoman. Et après, ma mère. Oui, enfin, ma mère, enfin, elle n'était pas au courant, quoi. Enfin, voilà, elle était comme beaucoup de femmes, elle pensait que la pilule.
Oui, elle avait un combat très légitime.
Voilà, c'est ça.
Je ne vais pas contre ça. C'est comme vous disiez, c'est sociétal, en fait. C'est quelque chose, c'est une avancée, c'est un progrès, mais en même temps, on cache. Vous vous battez contre le manque d'informations et le choix qui n'est pas offert aux femmes.
Oui, c'est ça, c'est ça. Ça, mais complètement. Et à un moment, enfin, il faut dire quoi. Il faut dire parce qu'en plus le truc c'est que les femmes sont pas malades quoi.
Donc ça. C'est-à-dire que j'en ai fait l'expérience comme je racontais à votre sœur avant de venir. J'expliquais que j'allais donc vous rencontrer aujourd'hui. Et la personne à qui je parlais m'a dit oui, mais elle devait peut-être avoir des antécédents. Donc c'est vrai que c'est aussi ce qu'on va d'abord mettre en avant sans doute. Donc c'est ça contre vous deux, contre lequel vous devez vous battre. C'est-à-dire que c'est pas problème, vous qui avez provoqué ce problème, c'est le fait qu'on ne soit pas informé des risques de ce type de.
Et puis quand les chiffres sortent, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Il y a un moment, c'est pas un cas isolé.
Alors comment faire aujourd'hui donc pour réussir à faire en sorte qu'on repense ce problème, les différentes solutions contraceptives. Vous le disiez dans votre livre, il faut peut-être repenser le système. Donc, contre qui faut se battre
Tu veux y aller ou...
Déjà, je pense qu'il y a beaucoup de gynécos qui devraient partir en vacances.
Ça, voilà.
Après, parce que il y a beaucoup de gynécos en fait, par exemple, qui savent pour les 10% de femmes qui doivent pas prendre la pilule, et puis après qui donnent à des filles des pilules qui sont hyper dangereuses, comme les pilules de troisième génération, des mini pilules, et voilà quoi. Donc à un moment, qu'est-ce qu'ils font là quoi?
Oui, parce que est-ce qu'il y a aussi un manque d'informations des intervenants de ce monde médical?
Oui. Alors soit des un manque d'informations, mais je vais vous parler de ma mère qui a rencontré une gynéco. À un moment où elle était un colloque mais un haut truc au niveau du ministère de la santé, et donc elle était juste à côté d'une gynécologue, et donc cette gynécologue, donc à un moment, donc ma mère a dit mais quand même, ma fille, on lui a pas détecté les vecteurs de coagulation, puis là, la gynécologue a dit mais on m'a détecté, ma fille et moi, les vecteurs de coagulation, de manière mais hyper innocente quoi, enfin hyper. Et alors, elle était hyper conne, c'est pas possible que en France les gynécos, fasse comme ça, quoi. Enfin, me dire, enfin, avec quand même deux cervelles dans leur crâne. Enfin, me dire, c'est pas possible. Enfin, et déjà, le truc, c'est que c'est pas possible aussi que des victimes soient contraintes de porter plainte pour ce genre de truc. Je veux dire, en principe, c'est des gynécos qui disent, mais moi, là, c'est pas possible. Je veux dire, on fait des trucs pour plus que ça arrive. Enfin, voilà, c'est pas possible qu'à la fin, il y a des morts, il y a des trucs comme moi pour qu'à un moment, enfin, mais voilà, c'est ça. Et puis après, enfin, ce sont des aléas thérapeutiques. Non, mais on se fout de qui, quoi.
Oui, quand on voit votre parcours, le terme aléa, effectivement, est un peu...
Mais non. Donc voilà.
Et vous parlez de ce pharmacien chez qui vous allez faire un petit test. Est-ce que vous savez les risques de la... je ne sais plus quelle pilule. Et on vous répond, non, elle est mini-dosée. Oui. Donc c'est en ce sens aussi où beaucoup d'intervenants, peut-être... n'ont pas du tout conscience de...
Mais oui, mais il veut dire, c'est un système qui est corrompu, quoi. Et moi, enfin, je trouve ça...
Voilà, et alors, est-ce que vous avez des signes depuis que vous avez engagé donc, ce combat qui est le vôtre, mais de beaucoup aussi, on lit aussi les témoignages qui sont dramatiques à la fin du livre, que quelque chose commence à bouger?
Bon, déjà, je mentionnais les étapes du deuil tout à l'heure. Je crois que la colère est une étape du deuil. Et je pense que Marion, comme vous l'avez remarqué, est toujours bien dedans. Et c'est son moteur aujourd'hui. Et c'est ce qui nous fait avancer. Par rapport à votre question sur est-ce que les choses avancent, je pense que déjà, il y a un an, clairement, le monde politique et l'administration a pris conscience de l'ampleur du sujet et je pense qu'ils ont eu très chaud au niveau du ministère de la Santé. Ils ont vraiment vu une affaire du médiateur bis, donc ils ont rapidement pris les mesures pour éviter pour vraiment maîtriser le sujet. Donc tout de suite ils ont mis en place le premier sujet c'était l'information, donc ils ont mis en place des dispositifs de communication, ils ont mis en place un portail sur la contraception un peu plus élaboré que ce qu'il y avait jusqu'à présent. Maintenant, on n'y est pas encore. Hein. Enfin, Marion a mentionné à plusieurs reprises cette question des facteurs de risque. Et aujourd'hui, il n'y a pas de mesures qui sont mises en place pour pouvoir systématiquement procéder au dépistage. Donc, le dépistage a lieu si on est au courant, si on a une maman gynéco qui travaille dans le milieu médical et qui nous dit « Attention, avant de prendre la pilule, il faut faire ce dépistage. » Et ça, cette information asymétrique, c'est inacceptable dans un système de santé tel que le nôtre. Donc, très clairement, il faut... il faut lobbyer pour que soit mis en place cette systématisation. Parce que c'est vrai pour une femme quand elle dans sa vie, quand elle va prendre la pilule, mais c'est important de le savoir aussi quand elle va être enceinte, parce que le suivi n'est pas le même. Donc c'est pas une information qui a une valeur économique limitée, quoi. Ça a une vraie valeur pour l'ensemble de la population, pour ses enfants. Enfin, on suit mieux.
Que vous citez donc par rapport à votre famille, le fait que votre mère, votre grand-mère avait aussi donc le même problème que vous et que c'est du coup, une contre-indication. Une de vos cousines a pu être exactement. Plus...
Et c'est vrai que quand les gens disent oui, mais à ce moment-là, ça coûte très cher, ça coûte donc 100 € par tête de fille. Excusez-moi, mais je coûte très cher et je coûterai encore plus cher après. Donc il faut un peu regarder, quoi. Prévenir. Enfin, c'est fou, quoi. C'est fou.
Et donc maintenant, vous êtes aussi, donc par rapport à l'accident qui vous est arrivé, maintenant vous êtes aussi dans cette réaction où vous œuvrez pour faire, par exemple, ces bas de contention qui soient un peu moins anti-sensualité. Vous en êtes où,
j'en suis à dire que maintenant, c'est bon. Enfin, je suis en train de construire l'association. J'ai appelé les grossistes. J'ai appelé les ESAT. Parce qu'en fait, je vais aller faire les bas de contention avec des centres d'aide par le travail. Donc voilà. Donc, c'est plutôt...
c'est un projet qui
oui,
avance.
Oui, voilà, c'est ça. Donc voilà, bah, c'est ce que Martin Hirsch m'a confié, donc je continue. Voilà.
Alors, est-ce qu'il y a des points aussi sur lesquels vous voudriez peut-être revenir ou insister, donc que je n'ai pas évoqué
Oui, je voudrais aussi par rapport à quelles sont les actions qui sont menées aujourd'hui. Donc, c'est vrai que les victimes se sont regroupées au sein d'une association qui s'appelle l'AVEP, Association des victimes d'embolie pulmonaire, et qui fait ce travail vraiment quotidien de vigilance par rapport aux mesures qui sont prises en termes de politique publique sur la contraception au quotidien, et qui donc pousse cette mesure de dépistage des facteurs de coagulation, qui fait des propositions pour mieux faire diffuser l'information auprès des praticiens en charge de délivrer ces moyens de contraception, pilule ou autre, puisqu'il n'y a pas que la pilule. Et donc c'est une vraie valeur citoyenne, donc je tenais à souligner cette information là. Et sur les autres points à rajouter, oui,
et aussi donc il y avait ce projet en fait de pouvoir prescrire la pilule aux collégiennes ou aux lycéennes beaucoup plus facilement, donc ça a été abandonné.
Il me semble que ils ont réfléchi à deux fois sur la manière de délivrer ce produit en fait.
Donc aujourd'hui, est-ce que quand une jeune fille se présente aux urgences avec un problème, peut-être d'essoufflement, comme vous expliquez, que vous croyez que...
Ah oui.
Bah, je pense qu'on en a bien beaucoup parlé.
Ouais. Une recherche...
Mais c'est sûr.
On ne dit pas que c'est une crise d'angoisse.
Voilà.
Bah, j'espère qu'on ne le dit plus et qu'on ne le dira plus.
Bah, déjà quand même... c'était fou, quoi. Juste à côté de chez moi, il y a des herboristes. Mmh. Et puis, j'ai des crises d'épilepsie maintenant. Et puis, je suis allée voir des herboristes pour savoir si il y avait des plantes pour diminuer. Voilà, c'est ça. Mmh. Et puis bon, j'ai parlé un peu de mon histoire. Et puis, là, le couple a dit « Mais merci, Marion. Grâce à vous, nous avons pu savoir que ma fille avait commencé à avoir... des cailloux dans le sang à cause de la pilule. J'étais là. Alors déjà là mes jambes se sont commencées à enfler là. Enfin voilà. Mais ce sont pas des aléas thérapeutiques, quoi.
Oui.
Il faut arrêter avec les aléas thérapeutiques, parce que sinon on a des aléas thérapeutiques jusqu'à l'an 3000. Donc, concrètement,
quels sont les moyens aujourd'hui quand on se présente chez un gynécologue avec une jeune fille, je parle un peu pour moi qui est une fille de 16 ans, qu'est-ce qu'il faut demander à la gynéco si on voit qu'elle nous propose juste un moyen
S'il propose qu'un moyen hormonal forme de pilule,
oui.
Déjà on arrête la conversation.
Oui, voilà, c'est ça, on se part en courant.
Ah.
Et le minimum, c'est évidemment d'avoir accès à tout ce qui existe, enfin, en termes d'informations. Et si la pilule est le moyen privilégié par votre fille pour X et Y raisons, parce que je l'ai prise, la pilule, je peux comprendre que ce soit commode dans une phase de vie. À ce moment-là, expliquer quels sont les risques et faire les dépistages en termes de...
Parce qu'effectivement, comme vous disiez, il n'y a pas que la pilule, il y a aussi les stérilés hormonaux.
C'est des hormones toujours.
Voilà. Chaque fois que ça...
Je prends un stérilet non hormonal, je me porte très bien avec, et maintenant, arrêtez de dire que le stérilet, c'est juste pour les femmes qui ont des enfants, quoi. Ça aussi, c'est vraiment...
Non, mais c'est bien de le dire, parce que c'est vrai que ça fait partie un petit peu des lieux communs.
Entre mais je veux dire,
il y a plein de femmes. J'habite à Paris et j'ai l'impression qu'on se passe sous le manteau les adresses des gynécologues qui acceptent de poser le stérilet pour une vie par.
Mais vraiment, c'est des légendes urbaines, quoi. Ouais. Et ça, c'est pas possible. Et je voudrais maintenant, enfin, qu'il y a une personne qui délivre les statistiques, mais vraies, enfin des gens qui souffrent après des prises de pilules, des gens qui souffrent après des prises de stérilet, des gens, enfin voilà, mais vraiment et pas des gens qui sont payés par les laboratoires, quoi.
Oui, parce que ce qu'on ne dit pas assez sur les estimations de risque qui sont publiées pour tel ou tel médicament qui sont mis sur le marché, c'est que c'est des études qui sont faites par les laboratoires. Mmh. Donc la preuve est fournie par le laboratoire. Et il y a quand même un petit problème de conflit d'intérêt quand même sur l'information communiquée au public et aux acheteurs des produits en question.
C'est pour ça, en fait, c'est un peu un cercle vicieux, puisque vous disiez aussi que dans les arguments qu'on vous avançait par rapport à votre problème à vous, c'est que c'était marqué dans la notice. Mais comme vous le dites, c'est pas à vous de, c'est au gynécologue de vous annoncer ce qu'il peut y avoir éventuellement dans cette notice.
C'est c'est aussi honteux. Et en fait, je trouve ça complètement honteux. Parce qu'en fait, c'est un moyen de culpabiliser. De culpabiliser, mais complètement, en fait. Au niveau des laboratoires, et je pense que si à un moment le procès a lieu, laboratoire aura beau jeu de me culpabiliser par rapport à ça. Pour la pilule de troisième génération, laboratoire a complètement fait une intox, donc voilà.
En fait, le problème sur la troisième génération par rapport aux notices, c'est qu'il n'y ait pas explicité le sur-risque en fait par rapport aux pilules de deuxième génération.
D'accord. Donc même en lisant la notice,
on ne sait pas que c'est plus dangereux qu'une deuxième génération. De toute façon, je pense que personne avant l'histoire de Marion, personne ne savait ce qu'était la génération de la pilule.
Voilà, c'est ça. Après, biberonner donc les gynécologues et voilà, et moi ma gynécologue elle m'a dit mais vraiment, enfin texto, elle m'a dit oh là là, mais c'est génial, c'est une mini pilule, vous avez rien à craindre, de toute façon vous êtes grande, vous êtes mince, vous venez pas, mais veut dire
mais est-ce que vraiment cette gynécologue ne savait pas où elle fait le jeu des laboratoires?
Elle pouvait savoir, elle avait les moyens de s'informer, les informations étaient...
Parce que si elle ne le savait pas, c'est quand même...
Mais dès la Haute Autorité de la Santé, dès 1996, donnait des avis qui disaient que les troisième générations étaient plus dangereuses que les deuxième générations, mais elles étaient quand même mises sur le marché. Et il n'était pas encore... Voilà. Quand Marion s'est fait prescrire la pilule, il n'était pas encore interdit de la prescrire en première intention. Cela a été qu'à partir de 2007-2008, je n'ai plus le chiffre exact, mais c'était après l'accident de Marion. Mais enfin, aujourd'hui, une gynécologue ne peut pas ignorer que ces pilules sont plus dangereuses que les pilules, clairement.
Et je trouve ça insupportable, parce que là encore, j'ai relu des articles qui sont écrits par les gynécologues en disant « oui, mais de toute façon, c'est pas un scandale, voilà, c'est juste une fille, elle a eu un AVC, on peut tout à fait compatir avec elle, mais j'en ai rien à faire de la compassion, avec Pauline, avec mes parents, que ça n'arrive pas aux autres, voilà. Et puis après, ils ont dit, bon, en tout cas, maintenant, on sait que la pilule de troisième et quatrième génération, c'est plus dangereuse. Et comme ça, on invite les femmes à prendre soin de leur corps. Ah. Mais c'est enfin, me dire, on marche sur la tête. C'est quand même, enfin, me dire aux gynécologues de savoir que la pilule de troisième génération, c'est plus dangereux. Et c'est les gynécologues quand même qui prennent soin de la vie, enfin des femmes. Donc moi, enfin, avant, enfin, je pensais vraiment que les gynécologues, c'était un peu, enfin, les médecins qui étaient pour les femmes. Et puis en fait, enfin, beaucoup de gynécologues sont pour les laboratoires, quoi. Et
non, mais ils ne sont pas forcément tous sciemment. Ce qui est sûr, c'est que là, il y a une l'information est biberonnée, comme dit Marion, par des circuits très, très étudiés par les laboratoires. Et c'est sûr que ces circuits marchent mieux que les circuits de la Haute Autorité de la Santé. Et c'est bien là tout le problème. Hein.
Parce que c'est vrai qu'au-delà de tout ce qui vous est arrivé et qui fait froid dans le dos, on sent qu'il y a aussi cette blessure. Que vous aviez confiance, effectivement, ce que vous venez de dire.
Ah,
c'est-à-dire
oui.
qu'on va chez la gynéco, on a 18 ans, on est une jeune fille brillante et on a envie d'avoir une vie de jeune fille de son âge ou de femme libérée, si je puis dire, et bien dans sa vie. Et voilà, en fait, on vous donne du poison, comme si vous mettez un flingue sur la tempe. Et c'est vrai qu'on sent, il y a le mot frustration qui revient souvent, et on sent qu'il y a aussi cette... Parce que vous commencez par cette histoire, j'ai toujours été bonne élève, donc en fait, la bonne élève, elle écoute aussi un peu
bien sûr,
professeur
oui.
tranquillement. Mais en même temps, j'ai toujours ouvert ma bouche. Donc, on a les deux phases de Marion, qui en même temps avait confiance, mais qui après, heureusement, se réveille. Mais il y a quand même, malheureusement, quelque chose de dramatique qui est arrivé entre-temps.
Oui, non, c'est sûr. Et puis l'aphasie n'a rien à ranger, ça c'est sûr. Donc, dès que j'ai ouvert à la bouche et dès que j'ai pu prononcer un autre mot que « enfin non, oui. c'est bon oui. », ça va, quoi.
Et puis, tu disais que tu ne parlais pas bien quand tu étais stressée. Là, tu n'étais pas trop stressée, là, ça va, non ?
Ouais, non, ça va.
En tout cas, merci. Grand merci à vous deux. Et à vous tous d'être venus, parce que je crois que c'est un sujet important.